Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mardi, René Friedman, spécialiste de la reproduction, propose avec ses invités de faire le lien entre médecine et société.
Les discussions du soir, une émission de René Friedman, en partenariat avec le quotidien du médecin. Et ce soir, nous serons en compagnie du professeur Pierre Delion. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Pierre Delion, vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille. Après avoir débuté vos études médicales à Angers, vous nous direz quelques mots sur ce parcours qui a été un peu contemporain d'un chamboulement, on va dire, de la psychiatrie et qui vous a attiré. Je viens d'apprendre que vous êtes aussi organiste, que vous adorez cette musique que nous entendrons à la pause, votre choix. Mais en fait, je vous ai invité à la suite de votre livre que vous venez de sortir chez Albin Michel, Mon combat pour une psychiatrie humaine. C'est-à-dire que la psychiatrie n'est pas humaine ?
D'abord, c'est un livre que j'ai écrit avec Patrick Coupchou, qui a bien voulu m'aider à mettre en forme ce récit. Alors, la psychiatrie est-elle humaine ? Bien sûr qu'elle le doit l'être et le rester. Le problème actuellement, c'est que les moyens qui sont dévolus à la psychiatrie dans notre beau pays de France ne sont pas à la hauteur des besoins, et que si on ne fait pas attention à préserver, on pourrait dire, le cocon humain qui doit entourer toute relation médicale dans ce domaine de la psychiatrie, comme d'ailleurs dans tous les autres domaines médicaux, elle risque d'évoluer vers des réponses simplificatrices du genre il y a uniquement le médicament qui peut répondre à votre angoisse, ou il y a uniquement telle stratégie de comportement qui peut vous aider à passer tel cas.
Mais vous pensez que ce sont les moyens qui manquent, enfin que c'est le point essentiel, ou est-ce que c'est le concept même maintenant de comment aborder la maladie psychiatrique ?
Je crois qu'il y a les deux choses. Il y a le concept, bien entendu, qui est en train de changer de façon assez profonde, et ça me désole un peu le sens vers lequel ça va. Et puis, évidemment, les moyens qui résultent du fait qu'on pense la psychiatrie de telle ou telle manière. Si on pense que la psychiatrie peut être réduite à une prescription de médicaments psychotropes, il n'y a pas du tout les mêmes moyens envisagés que si on pense que l'environnement humain doit être prévalent dans l'approche qu'on peut proposer sur le plan conceptuel.
Est-ce que ça, c'est le côté psychanalyste de votre formation ?
C'est le côté psychopathologie transférentielle, c'est-à-dire que la psychanalyse a été pour moi une source d'inspiration, de réflexion et d'approfondissement de mon métier considérable, mais à la condition qu'on ne la fétichise pas trop. Il faut pouvoir la travailler, la faire évoluer, et notamment la soumettre à des pathologies pour lesquelles elle n'avait pas été conçue au départ, comme par exemple la névrose occidentale poids moyen, c'est-à-dire les pathologies dont nous souffrons, nous autres normosés, et ça n'est pas très très en rapport direct avec d'autres pathologies comme la schizophrénie ou l'autisme, qui sont des pathologies beaucoup plus graves et qui évidemment demandent à la psychanalyse de faire un effort de reconceptualisation autour de ces nouvelles approches.
Alors bien sûr, nous allons parler de l'autisme dans quelques instants. Dans les livres, vous avez écrit beaucoup de livres, hein, je dirais autour de votre métier de pédopsychiatre. Tout ne se joue pas avant 3 ans, aussi chez Albin Michel. Et puis la pratique du packing en 2007, packing que nous allons détailler tout à l'heure et qui a créé une certaine polémique, on va dire, pour être modeste dans l'emploi des mots.
Chez RS, là, oui.
Alors justement, parlons de l'autisme, qui est le cœur de l'interrogation que se posent beaucoup de parents aujourd'hui. D'abord, première chose, est-ce qu'il y a une inflation, une épidémie, une vogue qui fait qu'il y a beaucoup plus d'autistes maintenant qu'auparavant? Mais peut-être avant de parler du nom, je devrais vous poser, qu'est-ce que c'est que l'autisme?
Alors l'autisme, c'est un syndrome, c'est-à-dire des signes qui sont réunis et qui sont enseignés comme tels par nos facultés de médecine, et qui permettent de repérer chez les enfants leurs difficultés fondamentales à s'accorder avec leurs parents d'abord et puis avec le reste du monde ensuite. Donc ça les conduit à se retrouver dans un état de solitude non pas choisi. C'est pas une solitude que je choisis parce que j'ai envie d'être tranquille, mais c'est une solitude par défaut, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et sur le plan de leur comportement, souvent, quand on essaie de modifier leur cadre, le moindre petit changement entraîne chez l'autiste
une panique,
une angoisse très importante qui est sans commune mesure avec nos angoisses de névrosée. Donc ces enfants-là vont connaître, puisque c'est un processus qui survient dès le début de la vie, vont connaître dans leur développement une sorte d'envahissement. C'est pour ça que le mot trouble envahissant du développement était assez intéressant parce qu'il qualifiait assez bien finalement ce qui arrive à ces enfants-là.
C'est-à-dire qu'effectivement ils sont envahis par ce trouble,
ouais.
Et ça va atteindre leur développement, leur relation avec voilà. L'autre en particulier.
Voilà.
Troubles de la communication verbale et non verbale, altération des interactions sociales et comportement stéréotypé restreint. C'est les
voilà.
Trois
c'est les trois signes qui sont retenus aujourd'hui, qui sont plus que deux maintenant dans le nouveau DSM-5, mais enfin...
Alors le DSM-5,
oui.
On s'arrête une seconde parce que c'est vrai que ce côté de nomenclature, on pourrait dire que qu'est-ce que ça vient faire, et en fait ça a l'air très important. Si on change la nomenclature, on change le recrutement, enfin le nombre de gens.
C'est sans doute un des éléments de réponse à votre question sur le nombre, sur l'inflation du nombre des enfants autistes d'aujourd'hui.
Parce que je crois que dans votre livre, Pierre Delion, vous dites 800 000 personnes en France seraient atteintes d'un trouble du développement.
C'est le chiffre qui est annoncé par les associations de parents d'enfants autistes, parce que pour l'instant, sur le plan épidémiologique strict, on n'a pas de chiffres qui nous permettent de savoir précisément ça.
Mais donc pourquoi c'est... Parce que justement, on revient à la définition de ce qu'on appelle la... Alors, dites-nous ce que c'est que la DSM-5.
Le DSM-5, c'est une classification internationale qui a été produite par l'APA, qui est l'association des psychiatres américains, et qui s'est imposée dans le monde entier comme étant la classification sur laquelle on peut échanger. Mais évidemment, elle est très, on pourrait dire, athéorique. Ça fait partie de ses objectifs, de ne pas rentrer dans les différentes théories, mais de rester descriptive. Et alors évidemment, quand on décrit ces signes-là, par exemple, trouble de la communication, chez un petit bébé, pour ceux qui connaissent bien la question du bébé, les difficultés de communication chez l'un, pour un juge, par exemple, qui est en train de faire un diagnostic, ne sont pas perçus exactement de la même manière chez l'autre. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement variables en fonction des personnes. Et on a beaucoup de mal à accorder ce qu'on appelle la fidélité interjuge pour établir ces diagnostics.
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de biologie caractéristique de la maladie.
C'était un des objectifs du DSM, en général, depuis son départ, c'était de trouver des marqueurs biologiques de ces maladies mentales. Et il semble que jusqu'à présent, on n'ait pas encore trouvé ces choses-là, et peut-être même qu'on ne les trouvera pas de sitôt.
Donc, effectivement, les choses évoluent. On parlait au tout début de schizophrénie, ensuite d'autisme.
Oui.
Ensuite, il y a même, je crois, Mises avait fait...
Une psychose infantile.
Donc, il y a plusieurs diagnostics sur ces mal-être et ces troubles du comportement et de la communication.
Voilà, qui correspondent aux mêmes enfants, mais qui sont des descriptions différentes, et qui, à chaque fois qu'elles sont remises en cause... entraîne une modification du nombre des enfants concernés.
La meilleure caractérisation de tel ou tel trouble entraînerait-elle une prise en charge différente ?
Eh bien, je pense que si on avait quelque chose de plus précis sur le plan diagnostique, probablement qu'on arriverait à faire des choses différentes sur le plan de la prise en charge. Je prends l'exemple de l'autisme qui aujourd'hui a englobé l'ensemble de ce que Mises appelait les psychoses infantiles. Et pour ces deux pathologies-là, l'autisme et la psychose infantile, ce ne sont pas les mêmes approches thérapeutiques. Donc, on voit bien que l'amalgame risque d'entraîner un certain nombre d'équipes dans des erreurs, non seulement de diagnostic, mais aussi de prise en charge.
Alors, dans ce chiffre de 800 000, c'est aussi 800 000 existants,
je veux dire par là. C'est 600 000, plutôt, habituellement.
Plutôt 600 000, oui, oui. Bon, voilà, oui. On voit bien, 200 000,
oui.
C'est beaucoup, hein,
c'est
d'écart.
Beaucoup, oui, oui.
Mais je veux dire par là que c'est aussi des tout-petits, des plus grands et des adultes,
voilà.
Puisque,
oui.
Bien sûr,
heureusement,
d'ailleurs, on en
parlait. Le pourcentage actuellement reconnu par les différentes instances internationales, c'est 1,5% de personnes qui sont atteintes, donc vous voyez ça... Les 800 000 dont vous parlez correspondent à peu près à ça.
Voyons un peu l'historique, c'est-à-dire que c'est un psychiatre suisse, Eugène Bleuler, qui en 1911, je crois à peu près, va parler pour la première fois, va utiliser ce mot, qui est un peu l'enfermement sur soi, la traduction.
C'est ça, il le décrit parce qu'il n'est pas très content d'une appellation de la schizophrénie qui à l'époque s'appelle encore la démence précoce. Et il dit que la démence précoce est une constatation un peu secondaire. Les schizophrènes ont des troubles cognitifs, donc ils deviennent déments de façon précoce, sur le modèle de Alzheimer, hein, qui était aussi quelqu'un qui était de cette époque-là. Et donc il va dire, finalement, le processus primaire dans la schizophrénie, c'est la dissociation.
Tout à l'heure, Pierre de Lyon, vous avez dit, on est naître. On est donc autiste. Est-ce que ça sous-tend que le trouble préexiste, existe in utero, enfin dès le développement même, il ne s'acquiert pas par la suite?
J'ai pas dit qu'on naissait autiste, parce que ça on ne le sait pas encore, mais on a des signes d'autisme très tôt dans le développement, quelquefois dans les premiers mois de la vie. Alors ça, on n'a pas encore répondu à la question de savoir si l'autisme était ou pas près la naissance. Je crois que ça, c'est un élément très important. Les généticiens ont beaucoup avancé sur
ces
questions-là.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, après, on verra les causes. Il y a des causes génétiques, donc automatiquement, elles existent avant.
Elles existent avant.
On évoque des causes environnementales, donc elles existent après.
Pendant, oui.
Effectivement.
Et après.
Mais je poursuis un peu le chemin historique. Donc on est en 1911, et puis on reste un peu là-dessus. Et puis en 1943, il y a Léo Kanner, qui est parti de l'Empire austro-hongrois, puisqu'il était juif galicien, puis il se trouve aux États-Unis. Donc en 1943, il va reprendre sa description.
C'est lui qui fait référence à Bleuler en disant « j'utilise le mot que Bleuler utilisait pour les schizophrènes qui deviennent autistes ». Mais comme le processus que je décris commence chez les enfants, on va appeler ça autisme infantile. Et ça, je crois que c'est assez intéressant parce que, en même temps, à un an près, un autre grand chercheur qui s'appelle Asperger va aussi lui décrire des pathologies autistiques chez des enfants qui sont scolarisés, donc qui sont d'un niveau intellectuel plus important.
Mais alors, quelle est la différence, puisqu'on dit de temps en temps, c'est un autisme ou c'est un autisme Asperger?
Oui, la différence, c'est que les Asperger sont réputés des enfants qui n'ont pas de troubles cognitifs, comme la plupart des enfants autistes en ont, et ont notamment un rapport au langage qui est tout à fait excellent, quelquefois très surprenant, par leur vélocité sur ce plan-là.
C'est eux qui vont écrire après
quand souvent écrire des histoires qui leur permettent de comprendre ce qu'une personne autistique peut vivre. Et notamment Temple Grandin, qui a été une des premières à pouvoir raconter un peu son histoire, qui a été très, très importante pour les professionnels, pour mieux comprendre et aussi pour les parents.
D'ailleurs, on va voir que les livres de ceux qui en sont sortis, on va dire, ou qui ont quelque chose à dire, ça foisonnait quand même. Il y a un certain nombre de témoignages qui permettent effectivement d'essayer de comprendre ce que c'est que ce « nobody nowhere », hein, « personne nulle part », ce vide qui, parfois, heureusement, n'est pas ne reste pas en tout cas comme ça. Comment est-ce que des parents qui sont préoccupés parce qu'ils ont vu à côté d'eux qui sont un enfant autiste ou à trouble du comportement, qu'est-ce qu'ils vont regarder chez leur enfant?
Ils vont être très sensibles à la qualité des interactions. Quand un bébé qui vient de naître, qui a quelques semaines, je le prends dans mes bras, je constate qu'à chaque fois que je le prends dans les bras et que je le regarde, ce bébé va m'adresser un regard tel que l'a décrit par exemple Stern ou Michel Soulet, qui sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur la question des bébés. Et à ce moment-là, l'interaction réciproque entre ce bébé qui me regarde et que je regarde va aboutir à quelque chose qui, ça y est, il me regarde vraiment au bout de quelques semaines. Chez un enfant autiste, quelquefois, au début de la vie, ça se passe comme ça, puis très vite, il y a un désamorçage de l'interaction, et j'ai l'impression que ce bébé ne regarde pas, qu'il ne s'ajuste pas de façon posturale dans mes bras quand je suis avec lui en train de lui donner le sein, si je suis sa maman, ou de le prendre dans ses bras pour son bain ou son change, si je suis son papa. Et à ce moment-là, ce désaccordage dans plusieurs canaux sensoriels, visuels, posturaux, auditifs, etc.
Quand on l'appelle, il ne répond pas forcément.
Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, le parent est très désarçonné par cette difficulté fondamentale de son enfant. Et ça le conduit vers quelque chose qui est une impression d'étrangeté considérable et qui fait qu'il se pose des tas de questions, qu'il essaie d'insister pour quand même rencontrer son enfant. Et ça le conduit à ce moment-là chez son généraliste à qui il demande « Mais qu'est-ce qui se passe pour mon enfant ?» Alors si le médecin est bien formé, il répond « Ça serait bien que je vous adresse à telle ou telle personne qui va vous aider à répondre à ces questions. » Et dans le temps où j'ai commencé, moi, la médecine, c'est-à-dire très très longtemps, au siècle dernier, les gens répondaient, bah, vous savez, c'est pas grave, ça va s'arranger. Einstein a parlé à 5 ans, donc c'était une réponse dilatoire qui n'était pas du tout favorable. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément changé ces dernières décennies pour aider justement tous les médecins et les professionnels de santé, la directrice de crèche et tous les gens qui sont avec les bébés à être sensibles à ces aspects-là. Le regard, le tonus, la voix, la réponse au prénom, tout un tas de choses qui sont très importantes pour les parents et pour le bébé.
Au point qu'on a créé donc des centres de ressources d'autisme
oui.
Régionaux.
Oui, hein, oui, régionaux.
Il existe à peu près un par région.
Dans chaque région, il y a un centre qui a été créé pour aider les équipes à pouvoir se former suffisamment pour justement répondre à toutes ces questions que les parents se posent.
Donc normalement, si les parents ou bien les enseignants, directeur de crèche.
Les enseignants, c'est plus tard.
Hein. Oui, enfin, les
professionnels de la petite enfance.
C'est le mot n'était pas bien choisi. Je veux dire, ceux qui s'occupent des enfants dans les crèches, justement, ont des doutes ou des inquiétudes, ils peuvent s'adresser à ces centres.
Moi, je conseille qu'ils s'adressent à l'équipe de secteur de psychiatrie de l'enfant qui est là, près de chez eux, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui a été fait pour ça. Et ces équipes-là, quand elles ont un doute sur telle ou telle problématique, peuvent s'adresser au centre ressources ou peuvent s'adresser, comme on l'a fait à Lille, avec mon ami Louis Vallée, qui est prof de neuropédiatrie, à des personnes qui font des consultations conjointes neuropédiatrie et pédopsychiatrie ensemble. On reçoit l'enfant, le jeune enfant, et avec nos deux visions différentes et complémentaires, on peut répondre donc à ses parents pour les aider à faire cette approche qui est nécessaire.
Alors le 2 avril, normalement, c'est une journée de sensibilisation à l'autisme. Donc, où des informations doivent être données, peut-être des portes ouvertes. Oui. Qu'est-ce qui est fait dans ces moments-là ?
Les équipes qui le souhaitent vont ouvrir leur pratique aux parents, aux professionnels. Et on voit, par exemple, dans l'hôpital de jour, dans l'hôpital du CHU de Lille, où j'ai longtemps travaillé, c'était l'occasion de faire une porte ouverte. Et donc, les gens venaient, les professionnels, des parents intéressés, et on pouvait répondre comme ça à leurs questions. Alors évidemment, quand on vient visiter un hôpital de jour, c'est qu'on a déjà des idées sur la question et qu'on vient un peu comparer avec d'autres éléments qu'on a par ailleurs, notamment souvent par Internet. Et je crois que ça permet de rencontrer des personnes en vrai et de pouvoir discuter vraiment avec elles. Ce qui n'est pas le cas quand on se renseigne sur Internet où c'est quand même une communication très unilatérale.
Bien sûr, et puis on trouve, comme on dit, tous les meilleurs et le pire. Bon, finalement, où est-ce que vous en êtes après cette longue pratique sur la compréhension du mécanisme? Est-ce que il y a, parce qu'on a évoqué, je crois, à un moment donné, qu'il y avait plus de neurones chez l'enfant autiste, et que par le fait, on pourrait regarder, peut-être avoir des éléments de comparaison ou de diagnostic, que ce serait donc un trouble des réseaux neuronaux, des synapses qui fonctionneraient de travers, mais peut-être avec une augmentation. Alors je crois qu'il y a une étude en Israël qui a été menée et qui finalement n'aurait pas montré de différence. Est-ce que vous êtes sur cette notion-là ?
Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette théorie de la sélection neuronale qui avait été proposée par Edelman et qui a été reprise par les praticiens et théoriciens de l'autisme pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc effectivement, augmentation plus importante des neurones et pas de sélection neuronale dans les circuits, notamment, qui mettaient en évidence la question de la sensorialité.
La thèse était bonne,
théorique. La thèse était bonne, mais elle
semble pas être
pratique. Elle ne semble pas être confirmée, notamment par cette étude à laquelle vous faites allusion.
Et d'ailleurs, Pierre Delion, est-ce que les éléments de l'imagerie, puisqu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'apport de l'imagerie du cerveau, est-ce qu'à ce niveau-là, on a quelque chose à se mettre sous la dent?
Oui, il y a des tas de recherches qui sont entreprises, notamment autour du sillon temporal supérieur, qui ont été très intéressantes, qui continuent à être menées et qui vont nous donner sûrement des résultats. Mais la question, c'est toujours la même. Les neuroscientifiques donnent des explications, des hypothèses qui sont générales. Et quand on est soignant, confronté à un enfant autiste particulier, on s'appuie sur la théorie générale et on s'occupe de cet enfant particulier.
C'est vrai, mais en même temps, vous disiez d'ailleurs vous-même tout à l'heure que porter un diagnostic, pouvoir caractériser un diagnostic, quelque part, c'est aussi un soulagement, enfin minime peut-être.
C'est très important.
Hein, mais c'est très important.
D'avoir ce diagnostic,
on voit bien dans ce champ de la génétique. éthique, par exemple, comme c'est important, on voit bien dans ce champ de la psychiatrie, comme c'est important de pouvoir affiner un peu la pathologie.
On voit bien d'ailleurs Arnold Munich qui a sorti un bouquin il n'y a pas très longtemps sur génétique et autisme, qui dit que l'augmentation du nombre de diagnostics précis sur le plan génétique permet d'apporter des compréhensions.
Mais voilà, il estime à 30% au moins parmi tous les enfants. Pour ça, il propose vraiment des consultations pluridisciplinaires où rien ne soit exclu, qui permettrait donc ce qu'on ne pensait pas quand même il y a quelques années, qu'on trouverait des stigmates génétiques à ce genre de.
On avait décrit le syndrome autistique qui survenait en coïncidence avec un certain nombre de maladies génétiques et neurologiques. Mais c'est vrai que ces choses-là commencent à se préciser davantage et ça donne des pistes de réflexion pour l'étiologie de l'autisme.
Est-ce qu'on trouve finalement une prévalence identique dans les pays industrialisés que dans les pays non industrialisés, dans les classes de la population? Est-ce qu'on a des études? Parce qu'on a l'impression que c'est une maladie occidentale, enfin on va dire...
C'est-à-dire que le repérage est occidental probablement la maladie elle-même est répandue sur toute la planète de la façon à peu près équivalente.
On n'a pas trouvé de zone exempte.
Non, je crois que c'est en rapport avec la capacité de faire un diagnostic.
Et autre chose, vous êtes frappé comme nous tous sur le fait que les garçons semblent plus sensibles.
Ça, c'est un des arguments pour les généticiens qui est très important pour eux, pour justement explorer tout ce qui tourne autour du fameux chromosome Y.
Donc, nous voilà avec une réalité qui a pris place. Dans la compréhension de ce phénomène, est-ce que on a appris quelque chose avec les jumeaux?
Oui, on a appris avec les jumeaux que dans le cas où ils sont homozygotes, la coïncidence de l'apparition de l'autisme, la prévalence est beaucoup plus importante, entre 65 et 90% selon certaines études, et le pourcentage est en train de baisser dernièrement d'après ce que j'ai lu. Et alors que quand il s'agit d'hétérozygotes, le pourcentage est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire que quand on a le même patrimoine génétique, on a plus de chances de faire d'autisme. Donc ça vient dire que l'autisme est en partie d'origine génétique. Mais si c'était que d'origine génétique, probablement que sa coïncidence serait à 100%. Donc on peut dire qu'il y a sans doute d'autres facteurs qui interviennent. Ça doit être pour ça que les généticiens ont inventé ce nouveau pan de la connaissance qu'ils appellent l'épigénétique, j'imagine.
Parmi ces autres donc facteurs qui pourraient jouer donc sur l'environnement et tout ça, donc là on voit que ça peut bien sûr être un environnement qui va jouer in utero, ça peut être après. On a évoqué pas mal de choses, on a évoqué des... Je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est énorme, entre les insecticides, l'alcool durant la grossesse, la prématurité, les troubles du microbiote digestif, enfin voilà. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur un point qui est quand même assez fou. Ça a été à un moment donné, on a dit, mais c'est les vaccinations.
Moi, tant que j'ai pas d'études validées qui me disent que les vaccinations ont une influence là-dessus, je reste en faveur de la vaccination.
Oui, la faveur en faveur de la vaccination qui protège, mais pas de la vaccination comme responsable.
Vous savez, toutes ces études ont montré les unes après les autres qu'il y avait des coïncidences à certains moments. La maladie de Lyme, par exemple, la dernière, qui montre qu'il y a des coïncidences entre
ça avec
des antibiotiques, c'est ça. Donc, moi, je crois que c'est des coïncidences qui ont sans doute une certaine fréquence, mais qu'en aucun cas on peut le retenir comme étant l'élément causal dominant. Et la preuve, la multiplicité des causes qui sont invoquées.
Alors, il y a quand même une histoire qui m'a un peu sidéré, sur l'histoire de la vaccination, de faire croire que c'était la vaccination, enfin, de démontrer des soi-disant preuves. C'est l'histoire d'Andrew Wakefield, qui a publié dans le Lancet, comme le premier, comme quoi ça pouvait effectivement être la vaccination qui était responsable de l'autisme. Et puis, en fait, des enquêtes ultérieures ont montré qu'il travaillait main dans la main, ou en tous les cas, il se passait des choses de main à la main, avec un cabinet d'avocats, lequel était spécialiste pour défendre les grandes causes, n'est-ce pas ? Qui avait touché 55 000 livres sterling, et du coup, il est interdit d'exercer la médecine en Angleterre. Alors, c'est important, parce qu'on voit bien que c'est même l'histoire de la pénicilline, les fausses pénicillines, enfin voilà, les escrocs n'hésitent devant rien. Tant qu'il y a de l'argent à gagner, mais après, il reste quand même des fausses idées. Donc, Voilà, donc on peut affirmer qu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que la vaccination serait favorable au développement d'un trouble du
comportement. Je crois que c'est un principe général à retenir. Hein. On voit que tout un tas d'études sont faites sous prétexte qu'il y a des résultats un peu interrogatifs. À ce moment-là, les gens disent « bon ben voilà, on a trouvé la cause ». Et à chaque fois, c'est le même processus. Les gens finissent par dire « ben non, finalement, c'était pas ça ». Donc il faut rester l'esprit ouvert et je crois très très polyphonique. Hein.
Alors oui, Pierre Delion, je suis d'accord avec vous. Vous avez voulu... sur un des modes de traitement qui est le packing, qu'on va expliquer dans un instant après une petite musique. Vous étiez en train de justement proposer un essai clinique en bonne et due forme pour essayer de démontrer est-ce que oui ou non ça apporte quelque chose. Et vous avez été un peu coupé en plein vol par tout un tas d'oppositions dont on va parler et on va essayer de disséquer le pourquoi du comment qui a empêché de faire une étude qui aurait montré peut-être ceci, mais peut-être cela. Vous n'étiez pas avec un a priori, comme notre Wakefield Andrew, qui était donc interdit d'exercer la médecine. Voilà, et son article retiré. Vous êtes sur France Culture, les discussions du soir de René Friedman, ce soir avec Pierre Delion, pédopsychiatre. Nous parlons de l'autisme et tout particulièrement, après avoir essayé de comprendre les étiologies, les raisons, un peu le mode de diagnostic de cette affection très envahissante, c'est le moins qu'on puisse dire, nous allons parler un peu de la prise en charge. Qu'est-ce que l'on peut proposer une fois qu'on a fait donc un diagnostic de comportement de ces enfants qui s'isolent, qui se referment sur eux, qui ont un trouble donc de la communication. Pierre Delion, dans votre service, quand vous étiez en activité pleine, vous aviez beaucoup d'autistes.
Oui. Il y a beaucoup d'enfants hospitalisés, beaucoup d'enfants qui venaient en consultation, venaient pour participer à des bilans au centre ressources autisme dont j'avais la responsabilité en ce qui concerne le diagnostic. Donc effectivement, j'ai passé beaucoup de ma vie avec les enfants autistes et leurs parents.
Difficile de les dissocier, heureusement d'ailleurs. Ouais, ouais. Pour le bien ou pour le mal, on ne sait pas.
Parce que si, pour le bien, parce que je pense qu'il faut absolument être avec les parents aussi et partager avec eux cette préoccupation pour leurs enfants.
Non, quand je disais ça, je veux dire par là qu'il y a des parents qui ont pris fait et cause pour telle ou telle attitude militante qui rendent peut-être parfois difficile, quel que soit l'objet de du militantisme, le dialogue. Et pourtant, c'est un point, on va dire, que vous avez cherché absolument à développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer, les éducatifs, pédagogiques, médicales?
Alors, quelles sont les pistes? l'assertion suivante, éducative toujours, pédagogique si possible, thérapeutique si nécessaire, de façon à rester au plus près de la clinique de ces enfants-là. Éducative toujours, c'est les parents qui sont les éducateurs de leurs enfants. Quand ils peuvent se débrouiller tout seuls, c'est parfait. Quand ils ont besoin d'être aidés, ils demandent à des éducateurs qui pratiquent telle ou telle méthode, ça les regarde. Et la seule chose que je demande, c'est de pouvoir dialoguer avec les éducateurs en question et les parents pour pouvoir essayer d'évaluer ce qui est en train de se passer pour l'enfant. Après le pédagogique, si possible, l'enfant, on fait l'expérience de l'école, il va rentrer à l'école maternelle, et puis s'il y a besoin d'aménagement, on essaie de réfléchir à des aménagements possibles. S'il ne peut pas être à l'école, une fois qu'on a essayé, alors on s'oriente vers le médico-social. Et dans ces deux premières occurrences, les enfants, un certain nombre d'entre eux, vont se satisfaire de ça, et vont évoluer notablement. Mais il y a des enfants pour lesquels l'angoisse va rester très très présente dans le comportement, à la maison, à l'école, et à ce moment-là, thérapeutique si nécessaire. C'est là que les pédopsychiatres avec leurs équipes interviennent et proposent donc de rencontrer l'enfant, de l'accueillir, de l'observer, et à partir de ce qu'ils observent et des observations des parents, d'essayer de proposer une prise en charge qui va tenir compte de là où ils en sont rendus chacun. Et l'autisme, je rappelle, c'est pas un autisme, c'est des autismes pluriels avec des différences considérables de l'un à l'autre.
Alors, il y a deux points qui ont fait polémique, discussion, interrogation, voire violence. La première, c'est certaines phrases prononcées par des grands de la psychanalyse, comme Bruno Bettelheim, ou par même celui qui l'a découvert, notre ami Léo, le premier en 43, oui. Mais qui vont parler de la responsabilité de la mère en particulier, oui, devant cet enfermement. Alors, il parle de mère réfrigérateur, et voilà, donc c'est déjà la culpabilité, mmh, est là avec le fouet psychanalytique, mmh, et donc ça crée quand
mais,
même...
Mais là, comme je vous le disais tout à l'heure, oui, quand on s'intéresse aux interactions précoces du bébé avec son parent, on voit bien que le processus autistique qui envahit l'enfant va entraîner chez les parents quelque chose qui est une interrogation, une énigme qui bien se sûr présente. Et ça peut les mettre dans des situations très très difficiles. Et à ce moment-là, je crois qu'il ne faut pas prendre les effets pour la cause. Et c'est peut-être ça qui s'est produit à un moment. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est facile de jeter la pierre 50 ans ou 60 ans après sur des gens qui, à l'époque, n'avaient aucun élément vraiment précis pour juger de ça, puisqu'ils ne s'occupaient pas des bébés. Ils s'occupaient des enfants qui avaient 5, 6, 7 ans et dans lesquels le processus était déjà très avancé. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui reprendre ça d'une façon plus réaliste et précise. Et je pense que les psychanalystes, notamment, ont beaucoup, beaucoup évolué. Et je ne connais pas de psychanalyste recommandable aujourd'hui qui peut continuer à dire des choses aussi imbéciles que ce que vous rapportez là. C'est-à-dire,
non, mais je le dis parce que je suis d'accord avec vous, qu'il y a une évolution, il y a une pluridisciplinarité qui s'est faite, voilà, aussi bien entre les généticiens que justement les psychiatres, psychanalystes. Mais c'est parce que ça reste quand même, c'est resté. Même Dolto est intervenu aussi un peu dans ce sens-là. Oui. Donc cette notion de culpabilité de la famille et, oui, du coup, je vais faire une cure psychanalytique, oui, pour essayer de comprendre pourquoi j'étais... Non, ça, voilà. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, on n'y est plus du tout. Mais ça crée peut-être du mal, oui, et ça aboutit à des prises en main, par exemple, par le Comité National d'Éthique en 2007, oui, oui, par des instituts comme la Haute Autorité en 2012, oui, ou bien par tout récemment par la HAS, c'est-à-dire avec des organismes de l'État, des interventions de ministres. C'est politisé. J'ai même vu passer il y a quelques mois une pétition signée par de nombreux députés pour interdire la psychanalyse, oui, oui, ce qui est quand même un peu le comble du genre.
Oui, on se demande dans quel état on est. Hein, oui.
Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des questions. Bien ça sûr, ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser des questions. Mais la seule attitude, me semble, Pierre de Lyon, l'attitude scientifique, c'est-à-dire essayer d'apprécier tel ou tel, oui, facteur. Oui. C'est ce que vous vouliez faire avec le packing, puisque vous étiez en plein, oui, acceptation de ce qu'on appelle un PHRC, c'est-à-dire un financement pour réaliser une étude, pour démontrer est-ce que oui ou non ça apporte quelque chose, et ça a déclenché les foudres des associations, oui, de parents sur lesquelles nous allons venir. Mais Expliquez-nous simplement qu'est-ce que c'est que le packing de ces enfants.
Le packing, c'est un enveloppement des enfants qui s'automutilent dans des linges qui sont passés sous le robinet d'eau froide.
Donc vous dites bien qu'ils s'automutilent, je veux dire par là que c'est pour certains types.
C'est pour certains types d'enfants, c'est d'enfants un très, très petit nombre d'enfants que ça concerne.
Qui sont à un stade
un stade
gravissime.
Auquel les gens n'imaginent pas qu'ils sont rendus. C'est-à-dire qu'un enfant qui se tape sur le radiateur jusqu'à avoir une marque qui lui ouvre le front, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir vu avant d'en parler. Et ça, c'est vraiment un état tellement épouvantable que les parents nous demandent une aide et qu'on essaie de trouver des méthodes pour arrêter cet enfant dans cette espèce de processus d'autodestruction formidable. Pour parler de ça, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Et quand des généticiens, des différents psychologues ont pris position dans le cadre de l'HAS sur « il faut interdire le packing », sans savoir du tout de quoi ils parlaient, ils ont quitté leur attitude scientifique. Et ils sont rentrés dans la religion, dans l'idéologie. Donc si vous voulez, je pense que c'est très important que les gens se rendent bien compte que c'était une méthode d'enveloppement pour essayer de, comme j'ai pu le dire à d'autres occasions, serrer l'enfant dans ses bras pour le retenir de se faire du mal. Mais comme on ne peut pas le serrer dans ses bras pendant si longtemps que ça, on avait trouvé cette méthode, qui est une ancienne méthode que j'essaie de réhabiliter. Et qui a montré une efficacité tout à fait importante, qui d'ailleurs va être démontrée dans la recherche qu'on a terminée récemment. Mais vous avez raison de souligner que, plutôt que de nous laisser faire cette recherche dans des bonnes conditions, qui aurait été quand même l'idéal, tout un tas de gens sont entrés en guerre avec nous sur ce plan-là. Évidemment, ça n'a pas facilité les conditions de la recherche, puisque je me voyais obligé de dire aux parents à qui je demandais l'autorisation que leur enfant soit inclus dans la recherche, « On va faire une étude avec votre enfant, il va participer à une recherche, mais c'est une méthode qui est interdite par l'HAS ». Donc évidemment, les parents étaient un peu en difficulté pour répondre sereinement à cette question. Et pourtant, tous les parents des enfants avant ces interdictions auxquelles j'ai proposé des packings étaient enchantés des résultats. Et d'ailleurs, les parents en question m'ont toujours soutenu. Alors que ceux qui m'ont attaqué étaient des parents des enfants que je ne connaissais pas. Donc je crois que c'est très important d'avoir ça présent à l'esprit, parce qu'on voit bien qu'on s'est totalement éloigné d'une démarche scientifique à ce moment-là.
Alors, revenons justement de ce traitement par l'eau, tel qu'il était proposé avec un maillot humide déjà en 1834 par Vincent Priesnitz. Donc, il y a eu plusieurs, je les passe parce que c'est de l'histoire. Mais le fondement de cela, je le lis dans votre livre « Mon combat pour une psychiatrie humaine » chez Albin Michel, c'est ce rassemblement de l'image du corps, c'est-à-dire un peu... pour éviter cette notion que donc ont parfois les enfants autistes de perdre des morceaux, hein, c'est-à-dire de, par exemple, voilà, la défécation serait une perte de du corps, aller faire pipi, c'est une perte du pénis. Vous parliez d'ailleurs à un moment donné, vous entrez dans le bureau de Houry, le psychiatre de la Borde, de la clinique Laborde, et il y a un homme qui est appuyé sur le bureau et qui lui parle, et Houry dit n'ayez pas peur, quand vous allez partir, votre main sera avec vous. Ce qui pointe donc cette angoisse parfois qu'ont certains malades de cette dissociation. Et donc cet enveloppement dans les langes, en présence, parce que c'est ça qu'il faut bien insister, c'est que vous le proposiez en présence de personnel, c'était donc humain, c'est même avec la détente que vous observiez des enfants, un retour au dialogue, il y a une certaine...
Notamment l'interaction visuelle, qui était à nouveau possible alors qu'elle ne l'était pas auparavant.
C'était pas un dialogue, c'était pas...
C'était un dialogue à chaque fois que l'enfant pouvait parler.
Et
je crois qu'à ce moment-là, ça donne des résultats tout à fait extraordinaires. Je raconte souvent l'histoire d'un petit garçon qui était très loin dans le langage, qui parlait très peu, qui s'automutilait de façon sauvage, et qui un jour nous a dit « Allah ». Dans une séance de packing, et après avoir reçu la mère et le père pour leur parler de ça, la maman s'est effondrée en larmes et m'a dit « Allah Clairefontaine, c'est la seule chanson qui l'endormait quand il était petit ». Donc c'était une capacité qu'on a eue dans ce cadre-là de retrouver des éléments d'histoire de cet enfant. Alors je ne prétends pas que ça a guéri l'autisme, mais je prétends que ça aide à passer des caps dans lesquels la vie de l'enfant est en péril.
Et justement, quand vous êtes face donc à ces situations aiguës donc d'autisme, et que vous proposiez donc ce packing, donc cet enveloppement froid qui serait avec le réchauffement, puisque ce qui compte plus c'est la notion du réchauffement qui vient très vite, hein, n'est-ce pas,
et du serrage,
et qui donne,
oui.
Et du serrage, et qui redonne donc cette sensation, oui, du corps et de l'unité, voilà, hein, de l'unicité, voilà, plutôt. Combien de fois et combien de temps,
C'est variable, c'est pour ça que je parlais en début d'émission des moyens, c'est parce que si évidemment on a suffisamment de personnel, on peut faire ça tous les jours quand un enfant s'automutile de façon très sauvage. Et à ce moment-là, ça a des effets spectaculaires très rapides. Évidemment, si on peut le faire que deux fois par semaine, ça va beaucoup moins vite. Donc ça, c'est vraiment une question, et les séances durent une heure environ. L'enfant est là une heure avec des soignants qui sont penchés sur
Mais
lui.
Mais vous avez vu des cures, des espèces de cures, oui, qui fait qu'on en sort?
Ah oui, oui. Oui, j'ai vu des tas d'enfants qui sont sortis de l'automutilation grâce à cette approche-là. Donc je suis très étonné que des parents se soient ligués pour dire on est contre ce truc-là puisque c'est efficace. Hein, c'est quand même un peu troublant. Et que des associations scientifiques se soient accordées avec ses opposants pour faire front contre ça, au point d'obtenir du ministre secrétaire d'État aux handicapés d'interdire cette pratique dans le médico-social. C'est quand même dire que des politiques sont sensibles au lobby plus qu'à la démocratie et à la science.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on ne peut pas faire du packing devant un enfant qui s'automutile? On n'a pas de médication?
Non, les médications sont inefficaces dans la plupart du cas, sauf si on les met à des doses telles que ça ressemble,
oui,
au coma et pas du tout à un,
oui,
soin.
Oui.
Voilà, je pense, moi je prône l'enveloppement sec, hein, en attendant qu'on puisse à nouveau faire de l'enveloppement humide quand les politiques auront retrouvé leurs esprits.
Qu'est-ce que passe avec les mouvements comportementalistes?
Alors pour ma part, je suis pour l'articulation avec eux. Je pense qu'il y a des... Quand je disais tout à l'heure éducatif, toujours les parents choisissent leurs éducateurs pour s'occuper de leur enfant. Ben, ça m'est arrivé de travailler avec des méthodes de différents types, hein, y compris les méthodes qui sont les plus en pointe actuellement et pour lesquelles les parents trouvaient que c'était bien pour l'enfant, mais à condition qu'on puisse travailler ensemble, c'est-à-dire que on puisse se rencontrer, faire des réunions de travail avec les parents pour discuter de l'évolution chez les uns, chez les autres, et qu'on mette nos résultats ensemble. Et qu'on soit pas dans une politique de c'est moi qui ai raison, les autres ont tort et je ne veux pas les rencontrer. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin sur plusieurs niveaux, le niveau, on pourrait dire, des équipes soignantes, de rencontrer les pédagogues et les éducateurs, de même que sur le plan de la recherche, on a besoin que les généticiens, les neuropédiatres et les pédopsychiatres collaborent pour trouver ensemble des éléments qui permettent d'éclairer les causes de ces pathologies très difficiles.
Vous avez pu réaliser des consultations pluridisciplinaires?
Oui, c'est ce qu'on fait très très souvent maintenant.
Avec les gens qui ont
Les gens qui ont des points de vue différents sur le plan de la référence théorique et avec lesquels on peut travailler ensemble autour d'un même enfant. C'est une maman qui m'a montré ça un jour en me demandant de recevoir l'équipe d'éducateurs qui pratiquait une méthode X ou Y pour qu'on puisse travailler parce qu'elle était contente des soins qu'on avait apportés à son fils. Et c'est en travaillant ensemble qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait s'aider les uns les autres. Et je crois que ça, c'est vraiment une avancée très importante à accomplir aujourd'hui.
Pierre de Lion, dans votre livre « Mon combat pour une psychiatrie humaine », vous employez des mots qui vont donner envie de lire, hein, ce qui est la hiérarchie subjectale,
oui,
la constellation transférentielle,
oui,
voilà, tout un tas de méthodes pour travailler en bonne entente dans le cadre d'une équipe où vous valorisez beaucoup, hein, le rôle des infirmiers d'ailleurs, que j'invite donc pour ceux qui sont intéressés par ces prises en charge à regarder parmi les nombreux livres que vous avez écrits. Le dernier est une somme de votre parcours et de la thématique de l'autisme. Cette émission, en partenariat avec le quotidien du médecin, réalisée par Catherine Donnet, Didier Lagarde, Philippe Brodin, nous permettent de retrouver ces informations sur le site internet franceculture.fr, d'écouter, de réécouter, de podcaster, enfin voilà, en fait tout ce que vous voulez, mais vous pouvez avoir tout et plus que tout en agissant ainsi sur le site France Culture. Nous nous retrouvons le 21 mars 2017 avec Caroline Gutmann, auteur du testament du docteur... Non, c'est pas Mabuse, c'est le Lamaze. Testament du docteur Lamaze, nous parlerons de l'accouchement, psychoprophylaxie, méthode contemporaine. Là aussi, proposition et contestation ont fait fureur. Nous reprendrons ça avec le grand-père de Caroline Gutmann. Merci.